This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Avenue Taniata.
Pour la livraison la plus rapide en ville, rotisseriefusée.com.
Hey, ça va, mon Alain?
Pas pire, mais l'hiver, réparation de toiture, morceau par morceau, vent, coulage, déneigement de toit, vraiment pas évident.
Ben, mon homme, laisse faire les pros. Toiture Le Court, service ultra rapide, moins de 24 heures.
Et Toiture Le Court? Hey, c'est bon, ça!
Faut contacter directement Kevin, 418-655-6718. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage.
MRJ Transport.
En déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse.
Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure.
Québecdebt.ca. Hey, l'argent, on le sait, ça rentre, ça sort. La maison, les deux chars, la roulotte. Puis là, ben, skidou, il était peut-être de trop. Parce que là, tes dettes t'étouffent. Attends pas de sauter un paiement puis de scraper ton crédit. Mon chum Frank de Québec Debt va t'aider à retrouver le sommeil. La solution numéro 1 avant les démarches de faillite, la consolidation des dettes, ça passe par québecdebt.ca. Go! québecdebt.ca, c'est là pour gérer tes dettes comme un pro.
Le 18 février à l'Anglicane, Mononcle Serge et les Crosse-Mononcles vous convient à leur nouveau spectacle. Piloté par Serge Robert, le groupe promet de vous faire sentir en orbite grâce à un mélange de rock, de rire et d'énergie avec les morceaux de son album L'An 8000. Le 18 février, rendez-vous à l'Anglicane avec Mononcle Serge et les Crosse-Mononcles. Billets disponibles au www.langlicane.com.
Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, coin Taniata et 4e rue. Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts. Surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle et sans tracas. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com.
Talk rock hip hop. Take it.
That's a red flag.
AJ got them hits, boy.
Scoochie.
DJ Meek Smooth.
Can't do no show without no karma.
That's a red flag.
He ain't no boss, he can't do what he wanna.
Nah, that's a red flag.
Don't confuse the carrots with no pointers.
That's a red flag.
Dismiss me with that baby mama drama.
Nah, that's a red flag.
Shawty got more followers than dollars.
That's a red flag.
She say she sucked the but she don't swallow.
Nah, that's a red flag.
How you grown but still live with your mama?
That's a red flag.
How you tone the bag without no cash?
Nah, that's a red flag.
Red flag, give your Glock and a 30. Get them in, get them gone in the hearing. Walk in your trap and take over your trap. Cause they know I do this with a urgency. Red flag, if you ain't never heard of me. I'm the one posting the hood with a murder beat. Lil' mama bad with a like Carter B. She let me put a free before you a fee. Gray flag, diamond. Whole lot of cash from rhyming. Plus I can still go post in the hood. They playing in murder for hunt. Hell got those, send me a hundo. I let them go for the low, I ain't hiding. Red flag, you that bass in the blitz. Adam Young, go stay where you hide.
Go
y'all, need this 1K, get slapped. Too far, one strictly trap. So no kicking the out. Red flag, ain't money. You on internet chasing it clout. Red flag, you cuffing it. Fly out my dick and I'm out. I'm clean.
I can't do no show without no.
Get the rest of stuff. Leave. CGMD 96.9 Lévis, la seule place où on réinvente la radio.
CGMD 96.9 FM, l'alternative radiophonique.
Là, c'est particulier. Je vais-tu réussir ça, ce show-là, moi-là? Bon, pour vous situer, je suis la seule personne qui s'est rendue à la station ici aujourd'hui. Si Jésus vous quitte, bon, bénissez tous les auditeurs qui nous écoutent et tous mes invités. Faites en sorte que l'émission se passe bien. Les Weppers tiennent le coup au retour, s'il vous plaît. Ils ont quand même lâché 4 fois cette semaine. C'est pas le temps. On pourrait se plaindre de quelque chose, mais on dirait que j'ai une jazz. On dirait que j'aime ça quand le bon Dieu ouvre les écluves du ciel de même, puis que tout à coup, tu sais, c'est comme le job est aux vaches, comme on dit dans mon langage de fille rurale. Bon, j'entends plus rien. C'est Guillaume Dionne qui doit opérer tout ça à distance. J'ai des invités, puis des invités de marque à part de ça aujourd'hui. On va aller voir immédiatement si ça a envie de fonctionner, cela, parce que mon premier invité, je l'appelle aussi mon boss, puisque j'ai le bonheur de collaborer avec non seulement le V8 Passion, mais également avec le magazine Révolution Motorcycle Magazine. Il est l'éditeur et le rédacteur en chef. On va rejoindre Fabrice Monchaud. Bonjour Fabrice.
Salut Marie, ça va?
Je peux pas croire que ça fonctionne. Ben ça va chaos un peu, là. T'es-tu prêt à fonctionner dans un système de même?
Ben oui, ben j'entends pas mal, ça grésille, j'ai l'impression que t'es au fond de tes toilettes, mais sinon ça va.
Non, ça grésille, attends un petit peu, là. Mais tu sais, c'est parce que, tu sais, tu comprends, moi, j'en avais une console que je connais pas. Le mieux que je pourrais faire, ce serait de peser sur toutes les pitons, tu sais.
Mais ça va, je t'entends quand même.
Ah, t'es adorable. D'ailleurs, on a eu le bonheur de se croiser la semaine dernière à l'Expo Moto de Québec. C'était une première édition. On s'est vu le samedi matin, ben de bonheur. Je me suis inquiété plus tard en journée parce qu'il y avait quand même les petits Ukrainiens au tournoi Pee-Wee puis un événement au Grand Marché. Ça a-tu quand même laissé les gens se rendre jusque du côté d'Expo Cité pour aller vous voir avec vos bécanes?
Oui, étonnamment, oui, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, mais je pense que c'était une foire de concessionnaires, beaucoup de motos à vendre, neuves et d'occasion. Plus qu'un salon où tu viens voir des motos exceptionnelles ou des choses comme ça, c'était vraiment un marché pour de la vente. Et apparemment, bon, c'était moins bon pour des exposants autres qui avaient des choses, on va dire, latérales, pas exactement des motos à vendre, comme nous, les magazines ou des accessoires, etc. Mais pour les organisateurs, ça a très bien marché, apparemment, pour les concessionnaires qui étaient présents sur place aussi. Donc, c'était le but du jeu. C'était une foire de la moto. Ça a fonctionné.
Ben, tant mieux, parce que, tu sais, en fait, on peut pas s'en passer. Parce que là, les gens étaient un peu paniqués à l'idée que l'ancien salon de la moto devait comme accrocher sa roue, comme on dit. Alors, ça prenait absolument quelqu'un pour prendre la relève. C'est un bon départ à ce moment-là. On peut espérer que la suite va venir, là.
Je pense que c'est une bonne initiative. C'est vrai que les salons, depuis la fin de la pandémie, s'il y a eu fin. Ou il y en a d'autres qui vont dire s'il y a eu début. Mais enfin, bon, bref. Les salons ont pas mal changé, que ce soit en Ontario, c'est pratique. En Ontario ou au Québec, la philosophie des salons, l'attente des visiteurs a beaucoup changé. Donc, il y a comme se réinventer un petit peu quand on est promoteur et autres pour trouver un nouvel intérêt ou un nouvel intéressement, surtout au public, donc, à avoir.
Ouais, ben de toute façon, c'est un public acquis, si on peut dire, parce que, je veux dire, quand t'aimes les motos, t'es aimes toute ta vie. Toi qui as eu le bonheur aussi de participer au Salon international de la moto de Toronto, ça, c'est quand même la Mecque au Canada, là. Est-ce que l'après-pandémie, ça s'est bien déroulé? Est-ce que les exposants étaient de retour en quantité?
Ben, c'est ce que je te disais. Je l'ai fait l'an passé, qui était vraiment le premier salon qui avait lieu tout de suite après la pandémie, où là, il y a beaucoup moins de halls qui étaient réservés par le promoteur. Je crois qu'il y avait juste 3 halls sur les 5 ou 6 qu'il prend habituellement. Cette année, il y en avait 5. Donc, il y avait la partie concessionnaire était assez fourni. La partie exposition, moto custom, etc., était sympathique, mais assez clairsemée quand même, où 70% des motos présentes étaient des motos qu'on avait déjà vues l'an passé. Donc c'est, je te dirais que les builders, comme les gens aiment les appeler, ceux qui fabriquent des motos, les ateliers qui se déplacent en général, qui viennent des États-Unis, de l'Ontario ou d'ailleurs, sont pas tellement présentés. Quelques-uns de l'Ontario, un Américain seulement, et sinon des Québécois qui sont présentés, des ateliers québécois, puis ça reflète au niveau de la remise des prix, parce que les trois premières places sont des trois ateliers québécois.
Bon,
ouais, hein. Des motos exceptionnelles, même si les Américains s'étaient pointés, de toute façon, ça aurait, à mon avis, pas changé grand-chose au résultat final.
Ben, regarde, c'est tout à la... honnêtement, là, c'est à la gloire de nos builders. On est-tu d'accord que, dans le fond, là, mettons qu'on le prendrait là, à l'échelle internationale, on a pareil les meilleurs de par le monde dans notre petite province, là?
Oui, bon, faut pas non plus aller trop loin, mais c'est vrai qu'à budget égal, les ateliers d'ici font des choses assez exceptionnelles, que ce soit dans l'auto ou dans la moto. On le voit, on l'a pu le voir avec Nest Custom. T'as dû suivre ça il y a pas longtemps avec une Cadillac qu'ils ont faite pour M. Michaud, etc. Avec les moyens mis en place, ils ont fait et présenté une auto qui, à mon avis, fabriquée, la même auto fabriquée aux États-Unis aurait coûté plus du double. Donc c'est, oui, on a un système D et des talents qui sont assez mal exploités, malheureusement. Dans la province.
Et si je m'en tiens à Cadillac Eldorado de Nes Custom, non seulement elle aurait coûté le double, mais eux se sont fait dire de l'autre côté qu'à la réaction des animateurs puis les présentateurs de Barrett Jackson, qu'en fait, ils ont un peu ouvert le chemin parce que les builders du côté américain n'ont pas eu cette audace encore là, de vraiment faire du resto mode en mode moteur automatique. Là, tout ça, c'est comme. C'est, on dirait que c'est encore un choc des cultures pour eux autres.
Ben, mettons que ça s'est vu, il y a un atelier américain qui l'a fait il y a au moins 4 ou 5 ans au CIMA, en prenant une vieille Mercury 49 et en mettant exactement la même technique, des moteurs de Tesla. Ça a fait le buzz, franchement, parce que c'est la première qu'on voyait dans ce style-là. Maintenant, je pense pas que ça soit le fait des ateliers, c'est plutôt l'attente du public. Est-ce que le public des retrodeurs qui est plutôt vieillissant et à même d'apprécier ou d'aller vers la conversion électrique encore, ceux qui aiment, comme toi et moi, qu'on aime le bruit, l'odeur du gaz, etc. Mmh. Donc, je suis pas certain, techniquement, c'est merveilleux, mais je suis pas certain que la clientèle soit là pour apprécier déjà ce genre de choses-là.
Non, puis tu sais, si on reste dans les autos, tu sais, même si on le sait que les jeunes là, de 20 ans là, vont plus tu sais miser à avoir un lowrider probablement que d'avoir un Ford des années 20 stock, mais il faudra quand même que certains les conservent ces mécaniques là parce que tu sais, je veux dire, ça fait partie de notre histoire, c'est des pièces de collection. Hein.
Ouais, maintenant les jeunes, tu le vis toi comme moi dans les expos. S'il n'y a pas d'application, je pense pas qu'ils soient tellement intéressés par des hot rods. Ils ont le nez dans leur écran, c'est difficile de voir une relève dynamique. Il y en a quelques-uns, mais de là à prendre la place de toutes les de devenir acquéreur à toutes les autos qui sont sur le ou qui vont devenir, qui vont venir sur le marché, je suis pas certain quoi.
Oui, puis on a hâte de voir aussi à quel prix ils vont être disponibles ces voitures-là, puis ça vaut pour les motos aussi, tu sais.
Ah, c'est comme les salons, on va vivre un gros changement dans quelques années. Quand les boomers vont commencent à disparaître et vont transmettre passer le relais, est-ce que les héritiers vont conserver les autos ou est-ce que les héritiers vont avoir du budget pour racheter les autos au gros prix parce qu'elles vont atteindre des prix complètement surréels, complètement même, je dirais même stupides si je veux oser parce qu'il y avait c'est complètement fou quoi. Ça, à un moment donné, ça laisse plus de place. Au rêve, en disant un jour je vais m'en payer une, non, mais c'est inaccessible, donc c'est même plus la peine. Donc on va voir ça. On va vivre un changement, et ce qui va être au clash, ou ce que ça va, je sais pas.
J'ai beaucoup aimé que tu utilises le mot héritier parce que, tu sais, même en termes de compagnie, on est les, tu sais, les compagnies sont les héritiers, pareil. Il y a un héritage qui doit suivre, tu sais. Te promener dans les salons comme ça, pareil, tu sais, tout le monde vit un peu des crises existentielles. Là, on parle de Harley Davidson des fois, mais tu sais, même Indians, puis tout, tu sais. Qu'est-ce que tu notes, là, dans les tendances actuelles, là, au niveau des nouveaux modèles ou encore vers quoi on s'en va, là, pour ces compagnies-là?
Ben, pour Harley, c'est pas nouveau. Qui surfent sur le vintage, etc. On l'a vu depuis l'an passé avec leur collection de vêtements qui est très très, très inspirée du côté vintage d'Harley Davidson. Ils sont vraiment replongés du côté années 50 au niveau de leurs vêtements, de leurs t-shirts, etc. Pour le bonheur de tout le monde parce que ça a l'air de marcher. Puis esthétiquement, ils sont très beaux. Pour les motos, bon, après, elles sont, j'espère, d'aller vers le vintage, même s'ils mettent des nouvelles mécaniques. En ce moment, il y a pas mal de nouveautés qui sortent avec des mécaniques un peu plus modernes, ou voire beaucoup plus modernes. Et du côté d'Indian, là, ça a été ma surprise au salon. C'est vrai que quand je fais le tour des concessionnaires, etc., c'était rare de voir autant de motos au même endroit. Là, il y avait toute la gamme Indian ou presque, et m'apercevoir que, bah oui, il y a de la concurrence pour Harley, les motos sont belles, plusieurs styles, très sport, un peu plus sport, balade, custom, etc., ou gros touring. Il y a vraiment une belle gamme et très étonné à Québec de voir le nombre de personnes qui portaient du linge Indian. Ça m'a surpris de voir que, bah, ça y est, que Harley n'était pas tout seul sur le milieu. Il y avait deux gros constructeurs américains de motos qui étaient présents, quoi.
Ouais, ben je vais te dire, c'est moi-même, là, j'ai tourné autour de la nouvelle collection, puisque cette année, c'est le 120e anniversaire. C'est-tu cette année ou l'année prochaine? Mais déjà, la collection est sortie. Le 120e,
c'est Harley.
Oui, c'est ça, Harley, c'est le 120e. Mais tu sais, je veux dire, moi qui aime le look pin-up, là, je veux dire, leur chienne au long avec les ailes en broderie dorée, là. Une chance qu'elle était 200 quelques piastres, parce que j'aurais eu de la misère à résister même à 9h le matin, tu comprends?
Ben, qu'est-ce que c'est 200 quelques piastres?
Ben, exactement.
Une animatrice vedette de radio qui fait des salaires
à tout. Moi, j'allais ajouter qui représente Révolution Motorcycle Magazine quand ça sort. Mais justement, parlons-en là, du dernier, en tout cas le numéro d'hiver, parce que j'ai poursu celui du printemps encore. Je l'ai beaucoup aimé, comme à chaque fois. Là, ça va-tu bien tes abonnements pour Révolution? Hein?
Ben, c'est pas mal. Je suis surpris avec la crise que beaucoup d'entreprises traversent en ce moment, de l'après-pandémie, etc. Moi, je pensais, depuis le temps qu'on nous prédit que les magazines vont être morts et que l'Internet ou que les médias sociaux vont tuer les magazines, malheureusement, c'est pas les médias sociaux ou l'Internet qui ne sont que des outils supplémentaires pour faire la promotion d'un magazine papier. Quand il reste un magazine papier, mais c'est la propre industrie du papier qui risque de tuer le magazine en ayant des hausses de plus de 200% sur la matière première, donc ce qui est complètement stupide. Mais contrairement à ça, enfin, bizarrement, les abonnements, les ventes en kiosque sont bonnes et les abonnements sont bons, donc on va continuer. C'est qu'il y a des amateurs qui aiment les petits changements que j'ai pu faire sur le magazine.
Ah oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
J'apprécie.
Ah, c'est beau, puis je comprends tout ton désarroi par rapport à l'industrie de l'impression. Non seulement les hausses de coûts, mais souvent les délais complètement déraisonnables pour réussir à avoir ce que tu as commandé, là. C'est difficile à comprendre un peu. N'empêche, tu sais, c'est comme moi, j'apprécie le fait que dans ma boîte à mal, non seulement je reçois mon V8, mais quatre fois par année, je reçois comme ça mon Révolution. La rouquine qui était en une du magazine d'hiver est magnifique, en plus, là. C'est comme tu as le goût de plonger dedans, comme on dit. J'apprécie toujours les montages, puis c'est certain qu'en ce moment, moi, je suis photographe pour le Stock Car, fait que quand on me présente des images de course, je suis d'autant plus attentive. Celle qui nous présente la course du Bagger Racing League, ça, c'est comme, on dirait qu'on se serait jamais attendu à ce que des motos aussi costaudes, tu sais, avec un aussi gros devant, puis tout, que finalement, les gars en mettent, prennent plaisir à courser avec ça, puis à pencher ça, le genou à terre, comme on le fait avec un racer?
Ben écoute, depuis que la moto est née, je pense qu'il y a toujours eu deux gros leaders dans la course qui tiraient la bourre, si on peut dire, c'est Harley et Indian. Harley a toujours été dans la compétition, pas forcément forcément vis-à-vis des japonaises, parce que ça, c'est une autre classe, mais a toujours été dans de la compétition moto, que ce soit du drag ou autre. Et c'est vrai qu'avec cette classe-là, la Bagger Racing League, la bataille d'antan est revenue un petit peu au goût du jour entre Harley et Indian, ce qui fait plaisir à voir.
Ah oui.
Les pilotes sont talentueux parce que c'est quand même des grosses machines, même s'il y a des classes un peu plus légères avec les sportsters et puis les scouts. Mais les gros baggers sont bien montés, ont des fourches spécifiques, des freins, des roues, des mécaniques assez affûtées. Et c'est vraiment, c'est impressionnant. Et ça a l'air de marcher, ça plaît au public en tout cas.
Ben, certainement que
ça fait des belles images. Et puis là-dessus, on va quand même pas oublier de parler d'une équipe de Québec en plus. Parce que c'est vrai qu'il y a des artisans du Québec, mais c'est plus une initiative de petits gars de Québec, de la ville de Québec, qui ont participé et qui ont fait une moto pour participer à la Bagger Racing League, qui ont très bien figuré d'ailleurs en août dernier. Quoi.
Alors, si c'est bien Samuel Guérin, dans le fond, de qui on parle présentement avec son équipe originale Garage Moto, en plus, il nous est arrivé des avaries. Ils ont été obligés, finalement, ils se sont fait prêter des pièces de d'autres, tu sais, des magasins pas loin. Ça ressemble beaucoup à ce que je vis dans le stock-car parce qu'en plus, c'est comme. C'est le genre de course qui rassemble autant des équipes avec des gros camping-cars, beaucoup de.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mécaniciens, des grosses commandites, autant que du monde qui dorme dans une tente, tu sais, puis que finalement, ils ont un budget plutôt restreint.
Ben, ça, dans toutes les compétitions, hein, que ce soit auto, moto, etc., ceux qui animent le plateau, qui font le plateau, il y a quelques équipes de tête qui vivent dans des gros camping-cars, des motorisés, etc., puis les autres, c'est du système D qui dorment à moitié dans la voiture avec une toile de tente. Je pense que c'est un petit peu ce qui est arrivé à notre équipe du Québec. Sam Guérin, c'est le pilote, apparemment il est très talentueux sur sa machine ou ses machines, parce que la deuxième, pour finir la course, il s'est fait prêter une machine, il a très bien fait.
Il n'avait jamais conduit, imaginez. Ouais,
mais c'est Original Garage, les petits gars d'Original Garage, commandités par Prévon, Sylvain Rack et quelques-uns, qui ont fait en sorte que cette aventure soit possible, quoi.
Bon, évidemment, j'aimerais ça que tu me parles, tu sais, on a toujours un faible pour les choppers, là, ça nous prend au cœur, tu sais, c'est ouais. Probablement que, tu sais, on a tous été marqués par Easy Rider, puis Captain America, puis non, mais veux pas, ça nous joue dans la tête, là, OK? Ouais. Mais celle que tu présentes, là, la Captain Larry, là, avec cette espèce de blanc crème-là, puis une tank à gaz tout à fait particulière, que j'aimerais que tu m'expliques, en fait, comment qu'on arrive à faire une tank à gaz comme ça, qui est pas bossée, en fait, c'est comme si on a réussi à inverser finalement la courbe vers l'intérieur.
Ben, c'est exactement ça. C'est que tu découpes ta tank à gaz et tu soudes la partie et les parties à l'inverse de façon à ce qu'elles soient en creux et non plus en histoire de concave et convexe, quoi.
Hey, mais c'est d'une beauté. Puis là, évidemment, en plus, ils ont eu le chic, l'atelier de Zodiac, de faire une peinture à la main, puis du pinstripe comme on apprécie tant, là, tout fait à la main.
Ouais, à l'ancienne. Un chopper ne peut être qu'à l'ancienne, sauf un chopper nostalgique un peu dans ce goût-là. C'est vrai que c'est le cliché parfait du chopper qu'on a dans la tête, comme tu mentionnais Easy Rider, Captain America et compagnie, les grands espaces, et surtout la belle année 1969. Là, ce chopper-là est assez représentatif. En plus, ils ont joué, ils ont fait quelque chose d'assez spécial sur le moteur, qu'on voit de temps en temps, c'est que la base est la base d'un panel, et le gros, c'est une tête de panel et une tête de shovel. Donc, les deux têtes sont pas, sont pas égales sur le moteur, sont pas similaires, donc ça fait un moteur assez spécifique.
Ben oui, ça donne un look absolument unique, mais je retiens quand même qu'ils ont mis des technologies de puissance. Tu sais, je veux dire, on a un style ancien, mais on a toute la puissance qu'on peut aller chercher aujourd'hui, là.
Bon, ben, c'est de la bonne mécanique. Il y a des embiellages SNS, beaucoup de pièces SNS qui est une référence en la matière. Zodiac, on travaille pas avec eux parce qu'ils ne sont pas représentés en Amérique du Nord. C'est vraiment un gros distributeur en Europe. Et on a eu la chance de collaborer avec un photographe européen, néerlandais, qui fait les photos pour eux. C'est lui qui avait déjà fait le reportage sur le musée en Autriche, sur le haut des montagnes, qui est assez fabuleux, quoi.
Ah oui, ah non, mais elle, on passe pas à côté. En plus, je te dirais que c'est un look mexicain, un petit peu, là. Mais je me demande tout le temps comment les gars arrivent à conduire un engin comme ça, pareil, tu sais, c'est comme... Y a-tu moyen de conduire ça de façon sécuritaire, là?
Joker.
C'est criant d'honnêteté, ton commentaire.
Non, il y en a qui le font. Il y a des shows. Quand j'étais encore en Europe, j'allais sur des shows, sur un show moto qui était le Freewheel, qui était un show fait par les anges. Et il y avait des gars qui descendaient du Danemark ou d'Allemagne avec ce genre de moto-là. J'avais 18-19 ans quand j'allais là. J'étais toujours impressionné de voir les gars bardés de cuir, les blousons avec la tente et puis les couvertures roulées sur les sièges arrière, sur les chibars, qui descendaient de pays assez lointains, qui tapaient 1000 ou 2000 kilomètres sur les routes françaises pour descendre dans le Massif central avec ce genre de moto-là. Donc ici, on en voit en Californie, quand il y a des shows, on en voit un petit peu, mais il suffit d'aller un petit peu à l'extérieur du show pour s'apercevoir que les gars roulent avec... des gros camions ou des pick-up et qui mettent des motos dans un trailer. Donc, c'est peut-être un peu différent. Après, il y a des vraies oreilles, il y a des gars qui roulent qu'avec ça. Et moi, je
leur tire beaucoup. Ben, ça me confirme ce que j'en pense souvent, c'est que c'est une moto d'exposition. Tu sais, c'est tellement beau. Tu sais, tu peux pas rouler 6000 km. Tu peux pas faire une ride à Pascal Richard, là, États-Unis, Mexique, assis là-dessus. Je le crois pas.
Là-dessus, non. Même s'il y en a qui l'ont fait par le passé, je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui le fassent encore actuellement. Même si, tu vois, il y a un vrai passionné de chopper en Ontario, Jason, là, qui fait des moteurs, qui a beaucoup de motos avec des panels, des nozzles, etc. Et lui, on le voit rouler. Je suis pas certain qu'il fasse des longs rides, mais il roule autour de Toronto avec ses motos, quoi. Donc, ça se fait.
Ça se fait, puis de toute façon, ils en feront ce qu'ils voudront. C'est comme, juste pour la beauté des yeux, c'est un ravissement. Je me suis questionné sur, dans l'article sur le Hometown Rally qui a lieu à Milwaukee, là, tu sais, où est né Harley, où est l'usine toujours, et où est le musée? Est-ce que tu as eu le bonheur de visiter le musée Harley-Davidson?
Pas encore, et c'est quelque chose que j'aimerais faire dans un avenir assez rapproché. Le Hampton, en plus, va être cette année donné lieu aux festivités du 120e anniversaire. Donc, ça va être assez grandiose, puisque Harley annonce des spectacles pendant une semaine avec sa venue de Green Day, les Foo Fighters, etc. Donc, ça va être assez gigantesque.
Wow!
Je prévois avec un de mes photographes, justement, celui qui avait couvert le Hampton, il va recouvrir le Hampton cette année et d'essayer de faire un compte rendu sur la visite du musée, justement. Donc, on va voir si ça dépend aussi des disponibilités des personnes de relations publiques. Si on a le temps de le faire et de pouvoir sortir des motos, les mettre en bonne présence de façon à ce qu'on puisse les photographier, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur de photographier depuis que je suis amateur de moto. Il y a surtout une moto là-bas, une Demoglide 58 couleur spéciale qui a un vert et blanche qui est c'est magnifique, il me tiendra à cœur.
Non!
Je poser mes yeux dessus.
Mais t'es-tu adorable, tu penses? T'as un romantisme par rapport à certains véhicules. C'est comme... la plupart des hommes parlent même pas d'une femme comme ça, imagine.
Imagine comment je peux parler de ma femme.
J'ose pas. La prochaine fois, on le fera sur cette thématique-là. Juste spécifier que c'est du 13 au 16 juillet cette année, le prochain Hometown Rally pour le 120e anniversaire anniversaire. Puis c'est quand même 20 acres, hein, le musée Harley-Davidson. Là, ça fait que ça doit être, faut se prévoir une bonne visite, mais c'est certain que ça vaut la peine. Puis il y a de quoi sûrement virer fou également dans leur boutique du musée. Dans les autres articles du dernier Révolution qui ont attiré mon attention, c'est certain que le défi des amis de la FXR, ça aussi, ouais, j'ai trouvé ça particulièrement attachant. Tu sais, que des gars, des grands builders, des gars qui ont des grosses compagnies, qui n'ont pas de temps dans la vie, mais qui décident pareil par les soirs de se monter des bécanes, qui datent toutes, dans le fond, des années 90, si je comprends, là.
Ben, les FXR, oui, parce que c'est une moto qui n'existe plus, mais ils sont quand même un peu complètement tripeux de cette machine-là, qui est un symbole vraiment du côté sportif, un peu d'Harley Davidson dans les années 80-90. Et ces grands noms-là, la chance de rencontrer, oui, Olivier, qui est un vrai journaliste, qui vit aux États-Unis et qui a pu les accompagner lors de leur balade pour aller à l'Arizona Bike Week. Donc c'est une chance, ça fait des belles images, ça fait des beaux souvenirs. Donc je peux moi malheureusement pas tous les faire, parce qu'il y a le côté automobile que je suis également, et je suis présent là, mais heureusement, par personne interposée, je peux vivre ce genre d'aventure.
Effectivement, quand on dit qu'ils sont membres du prestigieux Club Hamster, qu'est-ce que c'est que le Club Hamster?
Le Club Hamster, c'est un club qui avait été créé par Arnès et puis quelques-uns de ses copains, justement, juste avec des FXR et des motos assez longues, les précurseurs des baggers. Des motos très fines, avec des grandes roues devant. Souvent, le club a les t-shirts sont jaunes. Les motos avaient beaucoup de jaune, c'était une couleur prédominante des hamsters. Donc ça, c'était plus un club de Californie, de San Francisco, parce qu'Arlenes était là-haut. Je pense que son fils Corey a repris un peu le flambeau, mais les vieux de la vieille des hamsters sont toujours là. Et on a quelques membres au Canada qui sont membres des hamsters. C'est un club assez fermé, mais voilà, c'est autre chose. C'est pas un club gangsta ni quoi que ce soit. C'est vraiment un club de passionnés de moto.
Ben c'est des fois, c'est toujours bon de créer un effet de rareté. On veut encore plus en faire partie. Je retiens de leur aide à eux autres, pareil, que t'as beau être d'un plus grand constructeur, avoir les moyens, puis tout. Ça reste qu'une ride de même, ça vient avec des fuites, des problèmes d'injection, puis il y a des affaires à réparer, pareil.
Ben, de la mécanique, c'est de la mécanique. C'est pas une science exacte. Tu peux, on a un ami qui l'a fait il n'y a pas si longtemps, faire traverser les États-Unis avec sa vieille bagnole. Il t'arrive rien jusqu'à temps que tu arrives à presque pas loin de ta destination, où tu casses un essieu, où tu casses un grille. Ça arrive. Donc, c'est pareil en moto. Hein. C'est pas parce que tu es un compte en banque très fourni que la mécanique va pas jouer des tours.
Non.
On l'avait vu avec dans un précédent reportage l'an passé, j'avais fait sur le. Les Prémont qui avaient pris des vieilles motos et qui avaient été se balader dans l'île de la Madeleine, avaient fait une trip en moto. Bah, c'est des aventures sur le bord de la route. Tu perds un boulon, tu perds une pleuve, tu perds ceci, tu perds cela. Il faut savoir mettre les mains dedans et se noircir un peu les ongles.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est encore. Oui, j'ai quand même. Ouais, j'ai un Mopar pareil. Puis ouais. J'ai un Cadillac, là, qui finit par te salir. Évidemment, c'est comme ça. C'est comme quand tu es capable d'avoir les morceaux. Mais il y a des fois, quand tu décides de restaurer du vieux, c'est pas toujours évident de trouver des morceaux. Puis je me rends compte qu'il y a des modèles où c'est encore plus compliqué. C'est un texte de toi, d'ailleurs, pour la Harley-Davidson XLH62. Ça, c'est tout un défi là, de décider comme ça, de ramasser une moto qui, dans le fond, de ce que je comprends, venait d'une commande de 5 avec des numéros de série qui suivaient. Puis c'est comme, on sait même pas ce qui sont ses frères et ses sœurs.
Ben, avec le temps, il y a beaucoup de motos comme ça, beaucoup de véhicules qui ont été commandés pour des pays spécifiques ou des gardes nationales ou des chairs indiennes dans les années 50, vraiment vers la fin, c'est tout de suite après-guerre, la gendarmerie française avait commandé des indiennes pour faire la suite présidentielle. Donc il n'y avait que des motos indiennes qui gardaient ça par la suite. Comme la France était très impliquée aussi en Afrique, il y a eu des motos commandées, des flottes de motos pour les présidents africains. Celles-ci en fait partie, quoi. Donc, avec le temps, ça fait 60 ans. Je pense que, 10 ans, les motos étaient passées date. Tu peux imaginer qu'en Afrique, il n'y avait pas tellement de concessionnaires à Harley-Davidson. Donc, l'entretien était compliqué. Il suffisait qu'il y avait un problème d'humidité ou quelque chose comme ça, parce que c'est quand même assez, un climat assez spécifique là-bas. Et les motos étaient vite obsolètes, donc après elles sont soit finies, rapatriées par chance par un Européen ou un Nord-Américain, Le reste, elles ont été cannibalisées sur place, quoi.
Ouais, mais tu sais, quand même, de décider là, de la refaire originale, faut que tu retrouves les foutus morceaux. Puis c'est drôle parce que j'avais lu, toujours pour cette Harley Davidson-là, j'avais lu parce que le petit gars qui va l'aider, le monsieur, à la refaire, Michael Sainte-Marie, j'avais lu avec grande attention l'article sur lui quand il a remonté une Indienne 1928. C'est quand même assez particulier, un jeune garçon de même qui a à cœur de remonter des motos originales qui ont l'âge de ses grands-parents, là.
Ouais, on parle de tripeux, lui, ça en fait partie. Vraiment, il est tombé dedans. Alors, son père, lui, est passionné de muscle car, il a toujours eu des muscle cars d'exception. Lui, c'est les vieilles motos. Et ce qui est assez beau dans l'histoire, ça, je le mets pas dans le magazine, mais ça, c'est juste pour nos auditeurs, c'est que normalement, on dit toujours la passation de pouvoir et de passion, la transmission de la passion entre le père et un fils. C'est sûr que là, Serge, avec ses muscle cars, a transmis l'amour de la mécanique à son fils. Mais curieusement, c'est plutôt le fils qui a transmis sa passion de la moto au père, qui lâche un peu les muscle cars et qui se met à acheter des vieilles motos. Là, il s'est acheté une Anderson ou une Excelsior, je sais plus. Vraiment des belles motos américaines de collection. Donc ça, je trouve ça assez beau dans l'esprit, que ça ne soit pas toujours l'enfant qui subit quelque part la passion du parent, mais c'est l'enfant qui transmet sa passion au père ou au paternel. Donc, ça, je trouve ça plutôt pas mal.
Oui, puis même, c'est intéressant parce que moi aussi, je me suis arrêtée à ça, la passation. Parce que tu vois, dans l'article dont on s'est parlé sur les amis de la FXR, là-dedans, il y en a un qui est père, puis dans le fond, il est déjà en train de ramasser les pièces pour en faire. Il en a déjà fait une pour sa petite fille de 9 ans, puis il en monte une autre pour son autre petite fille, tu sais, en attendant qu'elle ait l'âge, les rider, tu sais. Fait que, tu sais, maintenant, c'est plus juste au fils, maintenant, ça va être à la petite fille, puis des fois, ça va revenir au père par après, tu sais.
T'as jamais entendu ça, toi, dans les expos d'auto, etc. Ne crois-tu pas que c'est plutôt une source d'excuse pour un passionné de toujours avoir un projet d'avance? Là, je fais pour ma petite fille ou je fais pour ma petite fille. C'est facile d'en avoir un sur l'établi ou dans un garage pour dire, oh, mais celui-là, il n'est pas pour moi, je le fais. Ou toujours, qu'on te dit, ouais, mais ça, c'est mon dernier. Ouais, c'est le dernier avant le prochain. Et c'est toujours comme ça. Mais non, c'est bien de vouloir faire des choses pour pouvoir les transmettre à ses enfants ou petits-enfants. Maintenant, est-ce que les petits-enfants ou les enfants ont le même amour pour le vieux métal et les vieilles machines? Ça, c'est un autre débat, quoi.
Ouais, souvent
des discussions avec des collectionneurs qui ont plusieurs véhicules. Oh, je vais faire ça pour mes petits-enfants ou pour mes enfants plus tard. Je pense que tu t'embêtes plus tes enfants avec tes tas de ferrailles qu'autre chose, quoi. Tout le monde n'a pas le même amour.
Non, mais je vais te dire, par exemple, c'est difficile de... Puis là, on n'aura pas le temps de faire le tour du magazine au complet, là, mais c'est difficile de résister, pareil, à la culture de la motocyclette. Quand on lit les articles de Pascal Richard, qui était anciennement l'éditeur du magazine, maintenant, il se fait une retraite sur la route, OK? Puis je vais te dire, là, les endroits qu'il visite, c'est audacieux, parce que c'est tous des endroits où je m'imaginerais pas aller me promener en moto, là, entre autres son périple au Mexique, où il se ramasse là, finalement à côté des ravins puis en haut des grandes montagnes, puis il se promène entre le 2400 d'altitude puis 40 mètres au-dessus de la mer. C'est spectaculaire, pareil, là, ces virées-là.
Ben, c'est un baroudeur. Pascal a toujours été un baroudeur. Comme je l'ai déjà dit sur une présentation par l'interview, je vis ma passion de la moto et l'amour de la moto un peu différemment. Et lui... là, maintenant qu'il est, entre guillemets, retraité, il profite à plein de ce qu'il aime faire, c'est-à-dire avoir les fesses posées sur sa moto et puis essorer la poignée et puis de parcourir l'Amérique du Nord avec ses machines. Donc, oui, il s'éclate. Oui, il est un petit peu aussi, très audacieux d'aller visiter des lieux un peu insolites et parfois dangereux, que ce soit géographiquement ou parce qu'il traîne au niveau de genre de gang et de cartels et autres, quoi.
Oui, effectivement, il traîne, comme on dit. Il traîne dans des lieux assez particuliers. Mais je veux dire, quelqu'un qui voudrait sortir de sa zone de confort, qui est bon conducteur, comme Pascal, c'est incroyable les itinéraires qu'il nous montre pareil, là. Tu sais, je veux dire, il fait des raids où ce qu'il va passer 61 tunnels, 115 ponts, là, tu sais. Oh, oui, non.
C'est un rider, un vrai rider. Il avait le temps, il prenait le temps avant, il en a encore plus maintenant. Donc, tu vois, quand on s'est parlé ou s'est rencontré ce week-end, lui, il était en Californie pour un autre événement de chopper qui avait été décalé à cause des intempéries, parce que oui, il y a des intempéries aussi en Californie, parce que c'est un show qui devait avoir lieu au mois de décembre, qui a été décalé à février, là. Donc on aura ça dans compte rendu dans les prochains magazines. Ce sont encore des choppers un peu vintage, comme celui que tu as aimé de Zodiac. Quoi.
Ben, comme je les aime tous à chaque fois, OK? Parce que dans le fond, c'est un heureux mélange, Révolution Motorcycle, tu sais, c'était on baigne dans la modernité autant qu'on n'oublie pas d'où c'est qu'on vient. C'est ça qui est beau dans l'histoire.
De plus en plus, moi, j'ai élargi un peu plus à, même au train moderne, comme les baggers qu'on peut voir dans les performances, avec des baggers très modernes, des fixers ou des choppers plus conventionnels, ou des bobbers. En allant aussi bien vers des motos restaurées ou des motos originales, parce que j'aime ça, ça fait partie de toutes les facettes de la passion des motos custom, mais aussi motos originales, ça me plaît, donc j'aime faire partager ça.
Eh oui, et tu le partages à l'année longue, hein? C'est pas parce que tout ça s'est remisé en ce moment qu'on n'y pense pas puis qu'on n'en rêve pas déjà. On devrait bien, on va sûrement avoir l'occasion de se rejaser avec les différents conducteurs de motos prennent la route.
Avant
mon déremisage, mettons?
Ouais, mais ça dépend quand est-ce que tu déremises tout de suite le 15 mars, toi?
Ouais, ben oublie pas que le Cordoba, il est blanc, là. D'habitude, je déremise le plus tard possible.
C'est ça. Ouais, moi, dès que je peux sauter dans mon vieux pick-up, c'est 15 mars, s'il fait beau, je le fais. Si la route est belle, mais c'est vrai que c'est pas à l'abri de roches et de choses comme ça, ce qui est encore pire en moto. Tu t'en prends du. Faut attendre que la route soit un peu lavée, parce que sinon, t'es un petit peu moucheté, pas mal.
Un petit peu moucheté. Regarde si tu as des belles expressions. Tu regarderas par ta fenêtre. Oublie pas que t'es une personne qui a choisi le Québec pour venir y vivre aujourd'hui. Oh, je te remercie d'avoir été avec nous autres.
Je regrette vraiment pas. C'est vrai qu'il y a des moments où tu dis, bon, qu'est-ce que je fais là avec de la neige où tu fais au pelleté, etc. Et que tu peux pas rouler. Tu roules que 6 mois de l'année. Ça, c'est le côté qui m'embête le plus. Qu'on puisse pas rouler à l'année longue. Mais bon, sinon, je regrette pas de. C'est ma pierre à l'édifice pour tous les passionnés, de façon aussi bien en moto qu'en voiture, de faire des magazines qui plaisent encore, quoi. Je suis surpris, au bout de 20 ans, ça fait 20 ans que cette année que je fais un V8 passion, puis ça plaît encore. Donc là, on est en train justement de boucler les prochains numéros, que ça soit aussi un V8 que de Révolution, que du guide des activités qu'on est en train de compiler pour que ça sorte en avril. Donc, on lâche pas, quoi.
Non, tu lâches pas. Puis on invite les gens à aller s'abonner, évidemment, autant au V8 Passion qu'au Révolution Motorcycle Magazine. Merci d'avoir été avec nous autres ce midi, Fabrice Monceau. T'es merveilleux.
Bon, ben, je t'embrasse bien gros.
Ouais,
à très bientôt.
Bonne conversation. À très, très bientôt. Bye-bye.
Bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.